France Bleu, RCFM. France Bleu. RCFM, Christine Allouzi, les experts.
Et bonjour et bienvenue dans Les Experts, c'est Christine Allouzi. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. On va parler de la pollution de l'air à l'intérieur, que ce soit de nos habitations, que ce soit à votre travail, dans les transports en commun. Voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui avec notre invité de Qualitaire Corse. Mais c'est tout de suite après ça.
Les Experts, 9h30, 10h30, Christine Allouzi.
I'm thinking of
Simply Red, Thinking of You sur RCFM.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la qualité de l'air intérieur n'est pas nécessairement meilleure que celle de l'air extérieur. Un problème d'autant plus important pour la santé publique que nous avons pour habitude de passer quelque 80% de notre temps enfermé à l'intérieur d'un bâtiment, quel qu'il soit, hein, je vous le disais, la maison, l'école, les transports en commun. D'où vient cette pollution? Quels sont les risques pour notre santé? Comment s'en protéger? On en parle aujourd'hui avec Jean-Luc Savé. Vous êtes directeur de Qualitaire Corse. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous a reçu il n'y a pas longtemps pour l'air extérieur. Aujourd'hui, on parle de l'air intérieur.
Voilà, parce que... je reviendrai tant qu'il y aura de la pollution.
C'est ça, donc, vous n'avez pas fini de venir, hein. Malheureusement. Pas pour vous, hein, mais pour la pollution. Beaucoup de pollution à l'intérieur, Jean-Luc Savé, plus qu'à l'extérieur.
Oui, parce qu'en fait, la pollution à l'intérieur est confinée. Donc, elle ne se disperse pas. On l'accumule avec les matériaux que l'on a à l'intérieur des maisons, nos pratiques au quotidien. Et aussi la pollution extérieure qui rentre à l'intérieur des maisons. Donc tout ça fait un cocktail pas toujours appréciable.
Cocktail détonnant. On aère toujours, bien aéré le matin. On aère. Ça, c'est la clé quand même.
C'est la clé, l'aération, effectivement. Ou des aérations en ouvrant, ou en ayant des aérations automatiques, on va dire, des VMC ou des ventilations. Mais en tout cas, c'est l'aération qui permet de
Enfin, la VMC, c'est protéger. Quand même pas suffisant.
C'est pas suffisant, oui, mais ça marche bien quand même. Mais il faut aussi travailler sur nos pratiques aussi. C'est-à-dire, il faut aussi diminuer nos émissions de pollution intérieure et également aérer. Il faut ces deux actions pour être dans un univers plus sain.
C'est 10 minutes d'aération minimum par jour.
Oui, c'est ça. Oui. Ça permet en tout cas de renouveler totalement l'air d'une pièce lorsqu'on aère 10 minutes.
Et puis je voyais que finalement, parce que des fois on se dit l'hiver, oh là là, il fait froideur, on a le chauffage allumé à la maison, on va ouvrir ça. Et au final, on ouvre 10 minutes, ça fait baisser que d'un degré la température, c'est
voilà,
pas énorme.
Voilà, ça fait pas baisser la température. Bon, on peut éteindre le chauffage pendant qu'on ouvre pour question énergétique. Mais bon, de toute façon, en 10 minutes, on va pas baisser la température. Ça va descendre d'un degré. Lorsqu'on va refermer la fenêtre, ça va remonter à la température qui nous est agréable. Et puis, on a en tout cas changé tout l'air de l'intérieur. Et c'est ça qu'il faut.
Justement, vous parliez de nos pratiques. On pense souvent aux peintures. Il y a aussi les meubles des maisons qui émettent beaucoup de particules.
Voilà, tous les matériaux qu'on utilise dans la maison, bon, les peintures, mais bon, après, ça passe avec le temps. Mais il y a tous les meubles également, les colles qui sont utilisées dans les meubles. Et ensuite, toutes les pratiques que l'on a, que ce soit le bricolage ou la cuisine, tout ça peut être émetteur de pollution à l'intérieur.
D'accord. On peut mesurer à l'intérieur de l'habitation, parce que je sais que vous le faites à l'extérieur, mais vous ne faites pas de mesures à l'intérieur.
On en fait aussi, oui, peut en faire. Oui, bien sûr, on peut mesurer. Maintenant, il existe aussi des petits capteurs qui ne sont pas très chers, qu'on peut utiliser aussi pour connaître un peu son ambiance intérieure, qui ne sont pas forcément très fiables, mais qui permettent d'avoir une tendance sur notre confinement, ne serait-ce que de notre habitation. Donc, il y a des mesures qui se font. Nous, je pense qu'on va développer aussi un outil qu'on mettra à disposition des collectivités et auxquelles les citoyens pourront faire appel s'ils ont vraiment des problèmes de santé. Donc, on pourra mettre à disposition des petits capteurs pour permettre de faire le propre diagnostic de qualité de l'air intérieur, notamment.
D'accord. Comment on sait ? Est-ce qu'on a des signes pour savoir qu'on est surexposé justement à ces fines particules ou à ces colles ?
Alors, il peut y avoir des signes, par exemple l'humidité. Lorsqu'on a de l'humidité dans les maisons, c'est souvent qu'il y a un problème de ventilation. Après, on peut avoir aussi des problèmes d'odeur également, qui ne sont pas forcément liés à des problèmes chimiques ou des problèmes de santé, mais qui peuvent être aussi une alerte concernant la problématique d'air intérieur.
Je parlais surtout des symptômes physiques. Hein. Est-ce qu'on peut ressentir, par exemple, qu'on est en présence de particules ou du moins, enfin, je sais pas, des maux de tête, des difficultés à respirer ?
Oui, la même chose que lorsqu'on est à l'extérieur, en fait. Lorsqu'on passe à côté d'un bus qui émet d'un coup un gros panache de polluants, ben oui, on peut avoir les mêmes symptômes, effectivement, des maux de tête, des gènes, des irritations.
Bon, mais à côté d'un bus, limite, c'est compréhensible, mais là, dans une maison.
Oui, mais c'est le même effet, sauf que ça a de l'effet plus long terme.
Long terme,
voilà,
ouais.
Donc avec des niveaux de concentration moins importante, mais sur le long terme, les effets vont être assez similaires.
Donc, on le disait, hein, il y a maintenant, je vous parlais des meubles, parce que je pense que c'est la première source dans une habitation qui émet toutes ces particules. Est-ce que, justement, il y a une classification ? On va parler un petit peu de ces étiquettes. Alors, comment on achète un meuble pour éviter à maximum toutes ces particules, toutes ces colles ? Déjà, acheter peut-être du bois, même s'il émet naturellement, mais acheter vraiment du bois
voilà,
plutôt
après,
que des particules.
Voilà, après, c'est vrai que tous les meubles, on a du contre-collé, etc., où il y a des colles, ça peut être émetteur de pollution. Donc après, c'est pas à vie. L'essentiel, c'est quand on achète des meubles neufs, c'est plutôt de les aérer dans une pièce qui n'est pas occupée ou alors à l'extérieur, le temps que les éléments s'en aillent. Donc voilà, c'est la priorité, quoi.
04 95 32 22 22, si vous voulez participer à cette émission, on parle de la pollution de l'air intérieur. Hein. Vous pouvez poser toutes vos questions, bien sûr, à Jean-Luc Savelli, directeur de Qualité Air Corse. Alors, il y a ces meubles, on le disait Jean-Luc hors antenne, sont classifiés. Alors il y a de la plus à C.
Alors plutôt pour les matériaux, effectivement, maintenant sur les matériaux de construction, alors que ce soit la construction ou alors les peintures ou l'ensemble des matériaux que l'on trouve maintenant dans les enseignes de bricolage sont obligatoirement avec une étiquette qui va de A+ à C, je crois.
Oui, c'est ça.
Donc voilà, donc c'est effectivement, lorsqu'on est dans A+, on est dans les moins émetteurs, notamment en composés organiques volatiles, qui peuvent avoir des impacts
les
sur la santé.
Voilà. Donc du coup, il n'y a pas vraiment une réglementation qui empêcherait justement aux fabricants de mettre tous ces composants.
Donc il n'y a pas de réglementation. En fait, c'est la personne qui va acheter, c'est l'acheteur qui va faire sa propre réglementation et à lui de choisir le matériau qui va lui convenir le mieux et on pousse les gens à aller vers du matériau à plus.
Ouais. Des matériaux à plus vont être beaucoup plus chers, je pense notamment au bois massif, etc. Encore une fois, ceux qui ont le plus faible pouvoir d'achat, ils sont d'autant plus confrontés à ces problèmes de pollution en fait, intérieure.
Oui, sur les matériaux, effectivement, comme ça, mais après, plus sur les peintures ou les éléments, il ne faut pas hésiter à parfois mettre un peu plus cher, ça y va de notre santé quand même.
Oui, je lisais aussi en préparant cette émission que 91% des produits ménagers seraient cancérogènes, c'est énorme.
Oui, ça aussi c'est une grosse problématique et c'est une grosse source d'émissions à l'intérieur, c'est nos pratiques aussi en termes de ménage. Notamment l'utilisation de la Javel ou alors l'utilisation de surdosage.
Vous allez le contrarier là, il ne faut pas utiliser de Javel ?
Ah non, pas du tout. Non.
Ah bon ? Expliquez-moi.
Non, effectivement, c'est une source après de composés comme le chlore, très importante. En plus, si on le mélange avec d'autres composés qui peuvent être des composés odorants, on peut créer d'autres composés chimiques. Donc il vaut mieux utiliser ou carrément de l'eau très chaude ou alors du savon noir. Enfin, en tout cas, limiter vraiment la Javel lorsqu'on a des problématiques très pathogène, on va dire, mais sinon, en termes général, ne pas utiliser ce type de...
Ah bon, parce que moi, j'utilise la Javel partout. Bon, voilà, merci, vous m'avez contrarié. C'est gentil. Au lieu d'utiliser tous ces produits ménagers, notamment même les aérosols, je pense qu'il y a c'est très concentré hein, en particules.
Voilà, et en plus, comme c'est diffusé, ça crée justement des petites particules dans l'air qui vont être facilement inhalables. Donc ça, il vaut vraiment mieux éviter d'utiliser des bombes des odorantes. Il vaut mieux ouvrir la fenêtre s'il y a des odeurs et puis... C'est beaucoup mieux, quoi.
Non, mais même, je pensais aux cires pour cirer, justement, les meubles, etc. Je regardais ça en préparant cette émission. C'est quand même énorme. On ne s'attend pas à ce que... Il y a des pics. Je regardais, il y avait une petite qui était faite. On mettait un capteur à côté d'une bombe, justement, comme ça, aérosol. Ça se donnait un pic de particules. C'était...
C'est pour ça que si on doit utiliser ce type de produit, il faut vraiment, vraiment bien aérer après. Et ce n'est pas 10 minutes, là. C'est beaucoup plus. Et faire en sorte qu'on a bien ventilé tout ce qui reste, qui va rester les résidus dans l'air par rapport à ces pratiques-là. Mais bon, si on peut éviter d'utiliser ces composés, c'est mieux.
C'est mieux. On va en parler tout de suite après. 04 95 32 22 22. On parle aujourd'hui pollution de l'air à l'intérieur de vos habitations, puis même à votre travail, à l'école, chez les enfants, voilà, partout. Donc si vous avez des questions, vous nous appelez. Hein. Surtout, vous nous envoyez vos messages sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM.
La nuit, on tremblait derrière les volets. Un silence attendait tout près des enfants. Le mal se préparait, l'angoisse s'y rajoutait. La nuit on tremblait, et pire. À un certain point, les cœurs ne parlent plus. Il n'y a que ce terre qui tient les hommes debout. Les peines serrent la gorge, la rage vous étrangle. Il n'y a plus que ce terre qui parle. Un silenzio aspettava accanto ai zideli. Si biettava ubegio, angoscia a buleggio. A notte si dormava e peggio. A un certo livello, i gori sozziti. Non c'è più che udace che ci dane a riti. Ebbene sta non gola, a rabbia strangola. Non c'è più che udace chi dice. E qualcosa, qualcosa, qualcosa cambiò. E un cuore tremò. E qualcosa, qualcosa, qualcosa cambiò. E un cuore tremò. E qualcosa, qualcosa, qualcosa cambiò. E un cuore tremò.
Un silence a frappé à la vieille grande porte, palais de la déroute, justice à l'occasion. Une voix manquait, le silence s'est avancé, enlevé le linceul, nu et seul. Il a dit au grand homme, je me porte témoin. Et quelque chose a changé, et un cœur a tremblé. Et un monde a changé, et l'avenir va changer.
Un silenzio a picciare, a vecchio portone, palazzo io beccato, giustizia all'occasione. Una voce mancava, un silenzio è venuto.
vivaci, testi mobili. E qualcosa, qualcosa, qualcosa cambiò. E un cuore primò.
E qualcosa, qualcosa cambiò. E un cuore primò. Quelque chose a changé. Et un cœur a tremblé.
Qualcosa, qualcosa, qualcosa cambiò. Et un cuore primò. Qualcosa, qualcosa, qualcosa cambiò. Et un cuore primò.
Et un cuore primò.
Testimo, un extrait de leur dernier album Pour tout court.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Ça paraît incroyable, hein, mais l'air à l'intérieur de nos logements est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. D'où vient cette pollution? Quels sont les risques pour notre santé? Comment s'en protéger? C'est notre dossier du jour. Vous pouvez nous appeler, Marion, je vous accueille au standard 04 95 32 22 22 pour poser toutes vos questions à notre invité, notre expert du jour, Jean-Luc Savelli, directeur de Qualitaire Corse. Alors, on parlait juste avant la pause des produits ménagers. On disait que 91% des produits ménagers qu'on utilise au quotidien, d'ailleurs vous m'avez contrarié avec ma Javel, étaient cancérigènes. Quelles sont les solutions, Jean-Luc, aujourd'hui pour faire son ménage sainement? Le vinaigre blanc, le bicarbonate?
Alors, quelques, voilà, quelques gestes pratiques. Notamment, la première chose déjà, c'est d'éviter de mélanger les produits, de se faire, de se prendre pour un
des
chimiste
mix.
Et de, voilà, de se dire, tiens, je vais rajouter un peu de ça dedans. Ça va faire un peu joli, un peu sentir bon. Mais bon, on ne sait pas ce que ça peut créer comme polluant. Donc, il vaut mieux ne pas faire ça. Utiliser notamment des produits qui sont plutôt écolabels. Donc là, on voit que label européen, où il y a d'autres types de labels, label vert ou des choses comme ça qui sont intéressantes. Sinon, utiliser des produits qui existent depuis la nuit des temps.
Mais la presque. Javel, ça anime la nuit des temps quand même. Hein, on a toujours utilisé la
déjà
Javel.
Quelque chose. Oui, mais bon, on peut changer aussi. Mais sinon, le bicarbonate de soude, le savon noir, le vinaigre blanc, même le citron. Tout ça, c'est des produits qui
naturels.
Sont naturels et qui sont tout aussi efficaces. Et ce qui est encore plus efficace, c'est d'utiliser par exemple la vapeur d'eau. Mm-hmm. Donc si vous avez un appareil qui fait la vapeur d'eau, on nettoie la vapeur d'eau et c'est très efficace. Il faut bien sûr aérer après pour éviter de mettre l'humidité en plus dans la maison. Mais on a le résultat qu'on a besoin, c'est-à-dire d'avoir un nettoyage sain au niveau de notre maison. Quoi.
Et si on mélange bicarbonate, vous parliez des mélanges bicarbonate
et vinaigre, non,
et
ça, vinaigre. Pas, ça va faire
ça
bizarre.
Fait...
c'est bien pour fait. Déboucher les lavabos, par contre.
D'accord, voilà. Ok. Ouais. Mais pas pour frotter par terre.
On peut essayer, je sais pas.
Ah, d'accord. Non, mais je parle au niveau d'émission des fines particules. Hein.
Non, je pense que ça
va. C'est soft. Je disais aussi que tout ce qui était à combustion, je m'explique, hein, faire brûler de l'encens, des bougies dans la maison, il y a beaucoup de personnes qui le font. Moi, je peux pas, je suis absolument allergique. Mais ça a un impact aussi, ça dégrade un petit peu l'environnement.
Oui, c'est un impact assez important. C'est émetteur de différents composés, des composés au niveau des coves, des particules, des éléments qui sont pas toujours très bons pour la santé, qui peuvent être irritants et peuvent être même cancérigènes des fois. Enfin, ça dépend comment est composé l'encens. Globalement, tout ce qui brûle à l'intérieur d'une maison, la cigarette, les encens, même la cheminée ou les appareils à point de chauffage, tout ça est fortement émetteur de pollution à l'intérieur.
D'accord, donc à éviter. Je voudrais qu'on revienne, puisque c'est l'époque, hein, sur les cheminées, justement. Alors, de plus en plus, on a des foyers fermés aujourd'hui.
Maintenant, c'est obligatoire. Ouais.
C'est obligatoire. Vous avez certaines maisons dans les villages, leur expliquer que c'est obligatoire. Mais quand même, quand on a la cheminée allumée, même si on a un foyer fermé, il faut aérer, aérer, aérer.
Jean-Luc. C'est ça, ouais. Bon, c'est obligatoire dans les maisons neuves, en tout cas. Donc, c'est vrai que dans des maisons anciennes, il existe encore des cheminées ouvertes. Bon, c'est agréable, hein, cheminée.
Oui.
On peut en faire un peu, il ne faut pas en abuser, parce qu'effectivement, la pollution est importante à l'intérieur de la maison, comme à l'extérieur aussi. Mais en tout cas, la combustion se fait moins bien lorsque le foyer est ouvert, et on peut avoir des émissions importantes de pollution à l'intérieur de la maison à cause des cheminées. Ouais.
Et encore une fois, si on a ce genre de choses, si on ressent, je sais pas, des maux de tête, si on ressent toutes ces choses-là, on fait appel à Qualité Air Corse. Vous venez même chez les particuliers pour mesurer.
Alors, on vient pas chez les particuliers, ça serait compliqué pour nous. Ce qu'on veut mettre en place, c'est des partenariats avec les collectivités qui ont des organismes qui pourront eux répondre à des problématiques. Mais on va plutôt cibler des problématiques où on va avoir peut-être avec des médecins des caractères de santé identifiés, on a des problèmes de santé.
Mais vous dites que c'est sur le long terme, donc pour le coup...
C'est ça. Par contre, chacun peut évaluer son air intérieur. Il existe des outils sur Internet qui sont très bien faits, notamment un qui s'appelle Un bon air chez moi. On tape sur Internet Un bon air chez moi, on va trouver. Mm-hmm. Et il y a un petit sondage qui est très bien fait en fonction de nos pratiques de ménage, en fonction de la Javel.
Je ne sais pas pourquoi vous me regardez, Jean-Luc.
Voilà. Donc sur ce point-là, vous n'aurez pas bon. Mais sur le reste,
rouge.
Peut-être. Voilà. Et donc, voilà, sur les pratiques de cuisine, sur les pratiques aussi d'aération, sur
même
du bricolage.
Même sur les pratiques de cuisine.
Ben oui, quand on fait la cuisine, ben on le sent. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des hottes aspirantes aussi. C'est pas que pour les odeurs. Ça aspire aussi des particules qui sont émises par la cuisine, notamment lorsqu'on fait aussi avec du gaz. Mais bon, dans tous les types de cuisine. Donc, c'est important aussi, lorsqu'on fait la cuisine, de bien aérer, bien ventiler. Et parce que c'est source de pollution également. Quoi.
D'accord. Je lisais aussi quelque chose en préparant cette émission. L'humidité, c'est aussi source de pollution.
Alors l'humidité en soi-même, non. Par contre, l'humidité est vecteur après d'autres pathogènes, comme les moisissures, par exemple. Donc, qui là, il peut avoir un lien avec sur l'impact sur la santé. Donc, il faut travailler sur la diminution de l'humidité, avoir une humidité qui est ni trop basse ni trop haute. Mais en tout cas, lorsqu'elle est trop haute, on peut avoir des pathogènes importants. Donc, c'est important aussi de réguler l'humidité. Ouais. Pareil, la solution, l'aération.
Toujours l'aération. On a une question d'une auditrice. Est-ce que vous pouvez parler des peintures? Que faut-il surveiller quand on achète sa peinture?
Alors, on a déjà évoqué tout à l'heure.
Hein,
voilà, donc maintenant.
Début d'émission, c'est pas bien, hein, Karine.
Ouais. Donc en fait, voilà, donc au niveau national, depuis un moment, quand même, depuis quelques années, 7-8 ans, je crois,
ouais.
Il y a obligation pour tous les fournisseurs de peinture d'étiqueter leur peinture avec cette vignette qui permet de connaître, en tout cas, les émissions de COV. Et à partir de là, il faut s'orienter principalement vers les normes A+.
D'accord. Et qu'est-ce que, du coup, on parle peinture, on revient là-dessus. Les peintures minérales, du coup, c'est mieux ?
Vrai que c'est assez technique. Je pense que les peintures minérales doivent aussi avoir un code concernant leurs émissions. Je pense que ça doit être plutôt du A+. Lorsqu'on est sur des peintures qui sont plutôt à base naturelle et moins chimique, on obtient ce résultat que l'on souhaite, c'est-à-dire moins d'émissions dans la maison.
D'accord. 04 95 32 22 22 pour poser toutes vos questions, vous comme Karine, hein, sur nos réseaux sociaux France Bleu RTFM. On accueille un auditeur.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Bonjour Jean-Charles.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les deux. Et merci pour votre émission parce qu'elle est très intéressante.
Ah, mais merci, ça fait plaisir.
Alors voilà, moi je suis un enfermé, puisque pas un enfoiré, un enfermé. Un enfermé parce que je vis à la maison.
Ah.
Je ne sors pas souvent et je vis sur le boulevard Pauli.
Ouh là là.
Alors, sur le boulevard Pauli, nous sommes exposés à une pollution multiple. Vous avez des bateaux en face, vous avez un boulevard avec le double circulation, vous avez des motos qui passent toute la journée. Vous avez des quads, vous avez des malades mentaux, enfin, vous avez tout. Vous avez tout toute la panoplie. Alors, les pièces sont très grandes, je ne vois pas. Vous voyez, on a 4 mètres de haut.
Vous avez des beaux plafonds hauts.
Oui, mais attendez, j'arrive une demi-heure le matin, mais je suis là où le boulevard se casse pour descendre sur la place Saint-Nicolas. Donc, je prends toute la pollution possible et imaginable.
Et oui.
Existe-t-il quelque chose pour lutter contre cette pollution interne, et puis surtout pour l'humidité qu'il y a dans cette maison, parce qu'il y a de l'humidité, je vois ça.
Eh oui, je me doute. Du coup, ne pas aérer aux heures, peut-être,
voilà,
je vais vous
laisser. Voilà, ce que j'allais dire, oui, effectivement. Donc, ce que vous faites, c'est très bien, c'est aérer aux heures où il y a le moins d'émissions. Donc, en dehors des heures de pointe notamment. Voilà, donc c'est
à 6h du matin. Mais après, à 7h, il y a les bateaux qui arrivent.
Eh oui.
Ouais, donc c'est effectivement, c'est à ce moment-là où il faut refermer les fenêtres pour éviter que la pollution de l'extérieur. Et effectivement, vous êtes dans un endroit où on cumule un peu les différentes émissions de pollution extérieure. Et effectivement, il ne faut pas ouvrir les fenêtres aux heures les plus. Des heures de pointe, que ce soit des navires ou des voitures.
Vous savez, on a quand même un horaire assez limité pour ouvrir à minuit. Hein.
Oui, c'est exact. Oui. Après, il n'y a pas forcément de solution.
Vous avez des malades mentaux la nuit. Hein. Ici, c'est 24 heures du Mans, le boulevard. Hein.
Oui, il n'y a pas forcément de solution particulière pour filtrer l'air de l'extérieur qui rentrerait à l'intérieur. Alors, ça existe.
Ma question, si vous me permettez rapidement...
Ben allez-y, mais on a le temps, on est là pour ça.
Est-ce qu'il existe un appareil qui ne ruine pas les gens, qui récupère l'humidité, voilà.
Alors, pour l'humidité, oui. Il y a des capteurs d'humidité qui aspirent l'air et qui filtrent et qui récupèrent l'humidité avant de relâcher l'air. Bon, ça fonctionne plutôt bien. Même
ça vaut combien un appareil comme ça, à quelque chose près?
Oh, ça vaut pas très très cher, entre 50 et 100 euros, je pense. C'est pas très.
Ah, pas plus.
Ouais, non, c'est pas.
Dans les 500-600 euros.
Non, il existe des systèmes portables.
Pardon, je vous coupe, Jean-Luc, mais vous parlez de pour capter l'humidité ou vous parlez de purificateur?
Récupérateur d'humidité.
Pas de purificateur d'air, hein?
Non, récupérateur d'humidité. Nous sommes à 80% d'humidité ici, je vous vois.
Ah oui, quand même.
Il y a la mer en face, hein.
Eh oui, mais vous en avez à tous les prix, hein. Vous avez des humidificateurs à 149 euros. Vous en allez en trouver. Je regarde en même temps sur internet, hein, pendant que je vous parle.
Est-ce qu'il doit être efficace à 140 euros?
Oui, je pense que ça va être bien efficace pour baisser le taux d'humidité. Après, vous pouvez aussi acheter des petits capteurs qui vont vous donner l'humidité à l'intérieur de votre appartement et qui pourront vous dire si c'est efficace.
Ah, il a déjà.
D'accord. Ouais. Donc, moi, je pense que vous pouvez essayer. Vous pouvez essayer cet appareil-là, ça va faire baisser le taux d'humidité. Après, si vous n'avez pas forcément de moisissure chez vous, bon, c'est bien de réguler quand même l'humidité pour éviter qu'il y en ait, justement. Mais voilà.
Mais après, pour le coup, Jean-Luc, pardon, je vous coupe, mais si le monsieur a des plafonds très hauts, il a des pièces.
Pas de monsieur, par pitié.
Jean-Charles. Jean-Charles a des plafonds très hauts, des pièces très grandes. Il va peut-être en falloir plusieurs pour le coup.
Ouais, globalement, c'est des appareils qui s'utilisent par pièce. Donc après, à voir sur la pièce qui est la plus humide, peut-être. Mais bon, avec des plafonds hauts, avec de l'aération, normalement, ça doit bien baisser lorsqu'on ouvre. Après, je comprends qu'on ne puisse pas ouvrir toute la journée en fonction de la pollution extérieure.
Surtout dans son cas. Jean-Charles, merci beaucoup. Vous pouvez rester avec nous si vous voulez réintervenir, parce qu'on va passer à la météo et au journal et on peut reprendre tout de suite après.
Merci beaucoup
pour votre appel et pour votre fidélité.
Wow, Michel, quelle classe! T'as un rendez-vous galant? Ah, mieux que ça, je reçois mon opticien.
Optique 2000 innove avec son nouveau service, Optique 2000 à domicile. Désormais, si vous avez des difficultés à vous déplacer, choisissez vos lunettes chez vous avec un opticien Optique 2000. Pour découvrir le service Optique 2000 à domicile, appelez le 0809 54 2000. Et comme toujours, votre opticien s'occupera de tous les papiers.
Optique 2000!
Une nouvelle vision de la vie.
Conditions et liste des magasins au 0809 54 2000 ou sur optique2000.com. Service gratuit plus prix de l'appel. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien.
Légué à la Fondation ARC, c'est accélérer la recherche sur le cancer. Le professeur Nicolas Barry de Longchamp est chercheur à l'Institut Necker.
Alors, grâce à la confiance de la Fondation ARC et au financement de nos travaux, ce qui va changer pour les patients, c'est qu'au-delà du fait d'être soignés de leur cancer de la prostate, ils n'auront plus à subir les nombreux effets secondaires des traitements traditionnels, puisque nous développons des traitements individualisés et donc leur qualité de vie sera très nettement améliorée.
Vous aussi soutenez la recherche sur le cancer par un leg à la Fondation ARC. Pour plus de renseignements, appelez le 01 45 59 59 01 ou allez sur le site de la Fondation ARC.
So 40 anni che sono oggi 50. Dai bei soli d'orezza a Corsica e mu tutti in capo so canzoni.
Tutti dai ludo castello per orizzonti lontani.
Il 31 d'ottobre al teatro di Bastia, Pietro Guelfucci invita una leva nuova di giovani cantaori esperti ai suoi più grandi successi. Jean-Vincent Servetto, Léa Antona, Diana Saligedi, Pedro Racci, Doria Housset, Francesco Emanueli ed altri saranno a fianco a Ello per una serata di tramandera. Pedro Guelfucci e ses invités au Théâtre de Bastia le 31 octobre.
RCFM, la première radio de Corse, partenaire de vos événements.
La météo avec Hertz Utilitaire. Location de véhicules utilitaires partout en Corse pour les particuliers et les professionnels.
Pour aujourd'hui, d'assez belles éclaircies se développent. Elles sont toutefois plus discrètes sur le relief ainsi que dans le Cortenay. Jusqu'en milieu d'après-midi, vent de sud-ouest soufflant modérément sur la partie occidentale du département, puis atténuation. Température maximale comprise entre 19 et 21 degrés et 15 degrés sur le relief. RCFM, il est 10h. Le point sur l'actualité, Didier Arnoux, bonjour.
Bonjour, avec un petit miracle, Patricia et Yves Roset, époux originaires de Seine-Maritime, ont été retrouvés vivants après 4 jours passés dans le massif de l'Hospédale. Parti jeudi dernier pour la cascade de Pichadigal sur la commune de Sangavino di Carbine, et ce couple qui fêtait ses 40 ans de mariage dans l'extrême sud s'était égaré. La faute à leur méconnaissance du terrain et de la météo. Une trentaine de gendarmes ont permis de les retrouver vivants. L'épouse ne souffre que d'une légère blessure à la cheville. La première journée du procès de Claude Chaussat, c'était hier devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence aux côtés d'un autre accusé, David Taddei. Il comparait pour l'assassinat de Richard Casanova le 23 avril 2008 à Porto-Vecchio, un procès hors norme car le principal accusé a collaboré avec la justice sans bénéficier du statut de repenti. Maître Pierre Bruno, avocat des parties civiles, a dénoncé le fait que Claude Chaussat tente d'influencer, selon lui, les jurés. Il attend maintenant que le droit reprenne sa place. Mathieu Chabert, nommé entraîneur du Sporting de Bastia, cet homme de 40 ans est actuellement entraîneur de l'AS Béziers depuis 2016, un club qui évolue en championnat de national mais qui l'a fait accéder en Ligue 2 en 2018 avant de redescendre pour un point. Mathieu Chabert prendra officiellement ses fonctions demain matin. De l'agitation à la méridionale, la CGT dénonce le parti pris de l'Office des Transports, là où une compagnie a été évincée pour 20 prises de frigo manquantes, dit le syndicat. Une autre a pu substituer un navire entier qui ne correspondait pas au métrage spécifié. Par ailleurs, le Piana est bloqué à Marseille depuis hier par les marins CGT. Piana qui a frété par Corsica Linea devait faire les rotations avec le port de l'île Rousse au lieu du port de Porto Vecchio qui lui est attribué dans le cahier des charges. Le STC a également exprimé son inquiétude pour la desserte maritime, pour les centaines d'emplois directs et indirects que représente la compagnie méridionale. De son côté, Corsica Linea a indiqué qu'elle faisait face à des aléas majeurs d'exploitation qui imposent d'agir pour continuer à assurer efficacement sa mission de service public dans le strict respect du contrat de délégation du service public qui nous lie à la collectivité de Corse. Et puis, autre mouvement à la Poste, cette fois avec les facteurs de Bastia et du Cap qui sont en grève depuis jeudi dernier. Les agents s'opposent à une réorganisation des services qui, selon la CGT, aboutirait à la suppression d'une dizaine d'emplois.
Merci Didier, on vous retrouve à 11h pour un prochain point sur l'actualité.
Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Jacques Besset, à mes yeux, dans le Rhône, nous dit pourquoi.
Je m'endors facilement au volant, comme j'avais pas mal de voyages à faire cet été. J'ai voulu tester les lunettes Polency. Je suis descendu dans le midi. Au bout de 2h30 de conduite, j'ai eu un petit bip-bip sur mes lunettes en disant « Conduite à risque, arrêtez-vous ». Je me suis arrêté. Et c'est vrai, j'étais au niveau 4. Et je suis reparti, puis j'ai pas eu d'autres soucis. On se sent plus en sécurité. Je sais que si je commence à être fatigué, je vais être prévenu. Donc pour moi, c'est un plus.
Cédric Prost, l'opticien Optique 2000 de M. Besset, à mes yeux.
Notre priorité, c'est d'apporter les meilleurs services à nos clients et donc nous réalisons des contrôles de la vision et nous proposons des produits innovants comme les lunettes connectées Prudency qui luttent contre l'endormissement au volant.
Alors monsieur Besset, content d'Optique 2000 ?
Très, et en plus, il s'occupe de tout.
Optique 2000, c'est les leaders français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien.
Bonjour, c'est Jean-Pierre Aquavive. Je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi dans Talk et Tambal. C'est un nouveau rendez-vous de 18h30 à 20h. De l'info, des commentaires, séries ou scherzos, sérieux ou pas, ce sont des chroniqueurs qui nous donneront un éclairage sur l'actu international, national et insulaire. C'est aussi à vous de venir nous rencontrer et de vous exprimer sur tous les sujets, ou presque. Éco, social, sport, people, conso, votre quotidien en un coup de fil. Des rendez-vous réguliers avec l'université, l'environnement, le sport, le foot en particulier. Une émission sérieuse sans se prendre au sérieux, c'est Talk et Tambad. Venez vous détendre du lundi au vendredi, de 18h30 à 20h, c'est sur RCFM.
France Bleu, RCFM. France
Bleu. RCFM, Christine Aloudzi, les experts.
Et bonjour et bienvenue à vous si vous nous joignez dans les experts. On parle aujourd'hui de la pollution de l'air intérieur et non pas extérieur. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la qualité de l'air intérieur n'est pas nécessairement meilleure que celle de l'air extérieur. Un problème d'autant plus important pour la santé publique que nous avons pour habitude de passer quelque 80% de notre temps enfermé à l'intérieur d'un bâtiment quel qu'il soit. D'où vient cette pollution? Quels sont les risques pour notre santé? Comment s'en protéger? On parle de ça aujourd'hui avec Jean-Luc Savéig de Qualitair Corse. N'hésitez pas à nous appeler pour poser toutes vos questions. 04 95 32 22 22 ou sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Alors Jean-Luc, on parlait tout, juste avant la pause avec Jean-Charles de déshumidificateurs d'air. Est-ce qu'on peut parler aussi des purificateurs d'air? On voit fleurir ça dans tous les rayons, c'est la grande mode, ça nous promet de détruire les allergènes, les acariens, etc. Qu'est-ce que ça vaut?
Disons que je pense que ça a été inventé surtout en Chine, lorsqu'on a de la pollution vraiment très très importante à l'extérieur et qu'on veut filtrer l'air qui rentre à l'intérieur, ça peut avoir un effet un peu réducteur. Sinon, par rapport à notre environnement locaux, pollution intérieure ou extérieure, il n'y a aucune étude qui montre l'efficacité de ces appareils. Donc je pense que c'est vraiment pas un gadget intéressant à part consommer de l'énergie. Je ne vois pas trop quel serait l'intérêt d'utiliser ce type d'appareil.
On ne peut pas trop s'y fier, en fait.
Pas à ma connaissance, il n'y a aucune étude qui montre que ça fonctionne, en tout cas.
Parce qu'une fois que les particules fines sont rentrées dans la maison, quoi qu'il en soit, pour les faire sortir...
Il faut aérer.
ça a le même effet, ces purificateurs d'air, que les ventilations mécaniques ou pas du tout?
Si c'est branché sur une ventilation mécanique, ça va avoir l'effet de rejeter des polluants à l'extérieur. Donc ça, à la limite, pourquoi pas. Mais après, de prendre de l'air, de récupérer l'air ambiant, de faire passer dans un appareil pour repartir avec de l'air neuf, j'y crois pas trop, quoi. Je pense, il y a aucune étude qui montre que ça marche. Et puis, il y a franchement aucun intérêt d'investir dans ce type d'appareil.
C'est pas nécessaire de filtrer justement notre air intérieur?
Lorsqu'on fait de la ventilation?
Non, avec ça, avec ce genre d'appareil, quoi. Parce que c'est censé filtrer l'air intérieur, c'est bien ça.
Oui, ça aspire l'air et puis ça est censé détruire les polluants avant de rejeter l'air. Mais bon, je ne crois pas à l'efficacité de ces appareils. Là où c'est intéressant, c'est lorsqu'on a des VMC ou des ventilations. Là, il y a des filtres qui permettent de récupérer notamment les pollens ou d'autres, ou les polluants un peu grossiers, qui ne retiennent pas les polluants les plus fins d'ailleurs. Donc là, ça, c'est un intérêt. Après, voilà, l'idée, c'est de pouvoir faire circuler l'air en repassant avec une ventilation qui va extraire ou en aérant tout simplement la maison.
Donc vous avez compris, pas de purificateur d'air, c'est un gadget, c'est ça?
Que ce soit électronique ou alors naturel, parce qu'on parle aussi beaucoup des plantes qui...
Les plantes dépolluantes.
Les plantes dépolluantes, là aussi c'est pareil.
Alors les plantes dépolluantes, justement, j'allais y venir aux plantes dépolluantes. Est-ce que vous... Non, vous n'y croyez pas non plus?
Non, c'est pareil. Il n'y a aucune étude qui montre que les plantes ont un effet pour diminuer la pollution de l'air intérieur. Il y a quelques études qui montrent que les arbres peuvent avoir un effet à l'extérieur en captant, en retenant les particules qui vont venir se poser sur les feuilles. Donc ça permet de réduire un peu la pollution. Mais bon, ce n'est pas encore vraiment très démocratisé comme idée, mais bon, il y a quelques exemples où ça a l'air de fonctionner. Donc en tout cas, plus il y a d'arbres en ville, et mieux c'est, en tout cas. Enfin, bon, voilà.
Donc c'est pas valable dans l'intérieur.
Mais à l'intérieur, voilà. Et même au contraire,
parce que ça émet quand même.
Ça peut être des sources, voilà. Donc ça peut être des sources de pollution, notamment lorsqu'on arrose un peu trop haut la plante. Il peut y avoir des champignons ou des petites moisissures qui se créent au niveau du pot, et là, ça va émettre de la pollution. Donc il faut aussi faire attention de ne pas trop arroser ces plantes pour ne pas créer de champignons au pied des plantes.
Parce que j'ai lu un livre là-dessus justement sur les plantes dépolluantes et on disait de mettre un anthurium dans la salle de bain parce que c'était des plantes qui aimaient bien l'humidité, de mettre des crotons dans les pièces du croton dans les pièces à vivre. Du coup c'est vraiment de la foutaise quoi. Mais du coup il disait que c'était pas...
Il y a aucune étude scientifique qui montre qu'il y a un réel intérêt à mettre en place des plantes. Voilà, bon après la plante ça crée de l'oxygène donc ça c'est bien. Il ne faut pas dormir, mettre des plantes dans les chambres
parce qu'au
contraire,
pas.
Ça consomme l'oxygène la nuit. Mais voilà, à part ça, il n'y a pas d'autres études vraiment très spécifiques en lien avec les polluants tels qu'on les connaît maintenant. Quoi.
D'accord. Sinon, il faudrait vivre dans un... Non, parce qu'il y avait une université à Lille qui avait fait justement une étude là-dessus et qui disait qu'il n'y avait pas trop d'efficacité. Justement, pour une plante dans une maison immense, il faudrait peut-être vivre dans une serre, en fait, pour que ça ait vraiment un effet.
C'est possible. Après, les plantes, c'est vrai que ce sont des bioaccumulateurs. C'est-à-dire que quand il y a des polluants, ils vont en accumuler une partie. Mais je pense par exemple aux métaux lourds. On en retrouve dans les... dans des végétaux à l'extérieur. Mais après, à l'intérieur, je pense qu'effectivement, il faudrait avoir une réflexion sur la quantité de plantes qu'il faudrait.
Oui, c'est ça.
Et après, est-ce que c'est bien de vivre dans une serre aussi? Je ne sais pas.
Non, mais en plus, vous parliez des feuilles tout à l'heure, mais dans le livre que je lisais, il disait que c'était les racines, en fait, les racines des plantes qui produisaient des bactéries et qui récupéraient justement tous ces polluants. Bon, après, écoutez, ça ne vous coûte rien d'essayer. Ne vous mettez pas en danger. On est en Corse, je voudrais qu'on parle du radon. Aussi,
oui. Alors c'est vrai que parmi tout, on n'a pas parlé un peu, on a parlé de façon générale un peu tous les composants qu'on pouvait trouver dans une maison. Il y a des composants chimiques.
Alors on va refaire un check des composants. Tenez, c'est important. Donc les composants chimiques pour commencer.
Ouais, on va pas faire la liste de tous les composants chimiques, mais effectivement on peut en trouver. Ben on va retrouver les polluants qu'on trouve à l'extérieur dus à la combustion qui peuvent rentrer à l'intérieur, mais aussi des polluants spécifiques en intérieur. On a parlé des COV notamment, qui sont issus des matériaux essentiellement. Ensuite, on a aussi des polluants particulières, donc des particules, des fibres. Bon, on a connu à un moment donné des fibres d'amiante aussi, qui pouvaient être des problématiques, notamment dans les bureaux, un peu moins dans les constructions. Mais donc, il y a ça qui peut être des sources. On a tous les polluants biologiques, donc les allergènes, donc les acariens, les moisissures, ainsi de suite. Et on a un peu des spécificités sur certains territoires, notamment des gaz radioactifs, dont le radon.
Ah, nous, on a toutes les chances. Hein. Voilà. En général, quand tu as une particularité, c'est pour chez nous. Hein. Oui, donc du coup, le radon.
Donc, on retrouve en grande partie sur la Corse. Alors, on a tendance à dire souvent que c'est en Corse du Sud et pas en Haute-Corse. Mais finalement, quand on regarde un peu les cartes, on s'aperçoit qu'il y a presque deux tiers de la Corse concernée, y compris la Haute-Corse également. Donc, c'est important de prendre en compte. Alors là, on n'est plus dans l'aération ou dans la ventilation du bâtiment, mais plutôt dans l'aération et la ventilation des sous-bassements des maisons. Qui est essentiel, c'est là où là se pose la problématique la plus importante, c'est quand le radon, de toute façon, il va sortir naturellement de la terre, et lorsqu'il est dans une ambiance confinée, il va se concentrer, et c'est à ce moment-là où on peut avoir des problèmes en termes de santé avec le radon. Donc bien veiller à ce qu'on ait des sous-bassements ventilés et bien aérés pour éviter l'accumulation justement de ce gaz.
De ce gaz. 04 95 32 22 22 pour poser toutes vos questions à Jean-Luc Savé, il est directeur de Qualitaire. Et puis sur nos réseaux sociaux, bien sûr, France Bleu RCFM.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Tu m'as quitté, toi qui pouvais me consoler. Allez, reviens, je t'ai peut-être mal dragué. Tu es si belle, je ne sais plus comment on fait. Tu fais des tiennes, tu me regardes de loin, toujours incertaine. Allez, reviens. Eh, madame la paix s'en est allée. Eh, madame la paix s'en est allée. S'en est allé, 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 s'en est allé. Même comme ça, je suis célibataire, tu vois. Même si tu m'as largué, je mets ma fierté de côté. Laisse-moi te parler, laisse-moi te regarder. Ne pars pas comme ça, sans m'expliquer. Eh, madame la paix s'en est allée. Eh, madame la paix s'en est allée. S'en est allé, 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 s'en est allé. Regarder le monde avec toi, juste une fois. Regarder le monde avec toi. Eh, madame la paix s'en est allée, s'en est allée. Et madame la paix s'en est allée. 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 S'en est allée.
Félix, Madame Lapèze sur RCFM.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
04 95 32 22 22 pour poser toutes vos questions sur la qualité de l'air intérieur à Jean-Luc Saville, le directeur de Qualitair Corse, comme notre auditeur. Dominique, bonjour.
Bonjour RCFM, bonjour à votre invité. Je voudrais poser une question à savoir sur la VMC,
oui.
La ventilation mécanique contrôlée, donc savoir, connaître enfin ses effets bienfaiteurs et puis également savoir si on peut l'installer dans des logements qui sont anciens.
Alors,
il y a une possibilité de l'installer, de mettre en une VMC dans des logements anciens.
Donc on a beaucoup parlé d'aération, de ventilation depuis tout à l'heure et effectivement c'est un peu une des actions essentielles à mettre en place dans une maison pour pouvoir avoir une qualité de vie, une qualité d'air qui soit acceptable. La VMC, c'est très bien parce que ça permet de pouvoir ventiler l'air de façon continue toute la journée et pas uniquement lorsqu'on va aérer la maison, même s'il faut aussi, on peut aussi faire les deux, on peut aussi aérer également. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir ventiler en continu, y compris la nuit, de pouvoir renouveler l'air. Idéalement, c'est vrai que c'est bien d'avoir des VMC qui sont double flux, qui permettent de faire rentrer de l'air sain et faire repartir l'air qui est un peu plus plus confiné à l'intérieur. Et ça permet aussi de pouvoir gérer la température de l'air qui rentre et de pouvoir faire aussi des réductions au niveau énergétique. Après, concernant les vieux bâtiments, oui, je pense qu'on peut toujours le faire. Après, c'est pas toujours très joli à voir s'il faut faire passer des gaines dans des vieux bâtiments. Il y a sûrement aussi des aides au niveau de la région concernant la rénovation énergétique. Ça peut rentrer dans ce cadre d'aide, je pense. Il faut contacter l'agence de l'urbanisme par rapport à ça ou les espaces Info Énergie et ils vous donneront des informations par rapport à ces points-là.
Quoi qu'il en soit, donc, on peut installer une VMC dans un logement, il n'y a rien qui l'empêche.
Oui, je pense que ça n'empêche personne d'installer des climatisateurs des fois. Donc on peut installer une VMC, pareil, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Quoi.
Ça répondait à votre question, Dominique ?
Oui, je suis satisfait de cette question parce que souvent, on entend parler de VMC, ventilation mécanique contrôlée, mais on ne connaît pas souvent ces effets bienfaiteurs et qui fait que vous avez donné une explication.
Et surtout, la VMC maintenant est essentielle, notamment dans les nouveaux bâtiments qui sont où il y a des rénovations énergétiques ou alors dans les nouveaux bâtiments, parce que sans VMC, on se retrouve vraiment dans des cocons qui ne sont plus du tout ventilés. Et c'est là où on peut avoir des problématiques air intérieur. Donc, c'est vraiment en lien avec des rénovations énergétiques ou des nouveaux bâtiments, c'est vraiment essentiel maintenant. C'est même obligatoire dans ça.
C'est obligatoire, ah oui, d'accord. Oui. C'est une obligation dans les logements neufs d'installer la VMC.
Oui, parce qu'il y a de plus en plus de normes, hein, justement, pour. Ça paraît même un petit peu bizarre, parce que les nouveaux travaux énergétiques, on fait tout en sorte pour que les bâtiments soient le plus hermétiques possible, alors qu'on nous dit d'aérer. Et au final, on se retrouve justement des fois avec des bâtiments qui ne respirent pas assez, quoi.
C'est ça, mais bon, c'est vrai qu'on a le cas.
On a souvent évoqué que ça pouvait chasser l'humidité, qui peut.
Oui, également, hein, oui.
Ce qu'on appelle les staphylocoques. Enfin, je ne sais pas, hein, si.
Oui, ça peut faire partir effectivement aussi l'humidité. Hein. Ça permet aussi de réguler la température et l'humidité d'un bâtiment. Ça permet de faire partir les composés chimiques qu'on pourrait avoir dans un bâtiment. Donc c'est vraiment très intéressant et surtout essentiel dans les nouvelles maisons, nouveaux bâtiments, nouveaux bureaux. Quoi.
Voilà.
Bon, et merci.
Merci beaucoup Dominique pour votre appel. À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Une autre personne qui nous envoyait un message sur nos réseaux sociaux. Je me réveille tous les matins avec le nez et la gorge très sèche. Pensez-vous que mon habitation, je précise neuve, n'est pas une bonne qualité d'air ?
Alors là, c'est peut-être un problème d'humidité, mais alors, en inversement, elle n'est pas assez humide, peut-être. Donc, l'idée d'avoir de vérifier les parce qu'on parlait aussi d'aération, de ventilation, il suffit pas de l'installer pour se dire tout est résolu, tout va bien. Il faut aussi veiller à un bon entretien, à ne pas boucher, de vérifier qu'il n'y a pas devant les bouches d'aération ou de ventilation d'éléments qui vont empêcher de pouvoir faire son travail convenablement, la bonne circulation. Donc, s'il n'y a pas peut-être d'aération dans ce bâtiment, voir s'il y a une possibilité de mettre en place, c'est peut-être la cause, mais visiblement, c'est un air pas assez humide.
Elle dit, mon habitation neuve, je précise, ça veut dire que ce sont des bâtiments qui sont très hermétiques, ça vient peut-être de là.
Ça doit forcément venir de là, oui, sûrement. Oui,
donc, pas assez d'humidité dans le...
Voilà, c'est ça. Il ne faut pas non plus que ça soit trop sec, l'air, parce qu'on a besoin également aussi d'humidité. Idéalement, on parlait tout à l'heure de capteurs, mais entre 30 et 60% d'humidité, c'est l'idéal, quoi.
D'accord, donc entre 30 et 60%. J'espère, Françoise, que ça répond à votre question. Je voudrais qu'on parle, puisqu'on est un petit peu dans la période où maintenant tout le monde va rallumer le chauffage, etc., qui crée malheureusement chaque année, qui est responsable chaque année de centaines de décès en France, c'est le monoxyde de carbone.
Oui, Jean-Luc Savet. Une alerte à faire là-dessus. Veiller à faire contrôler son installation de chaudière, de chauffe-eau ou d'autres types avant de rallumer, ne pas utiliser de chauffage d'appoint, des fois qui peuvent être aussi, notamment au gaz ou au pétrole, qui peut être aussi une source de monoxyde de carbone. Je rappelle que le monoxyde de carbone est un gaz qui est totalement inodore, c'est-à-dire qu'on le sentira
inodore,
pas.
Indolore, incolore, il est ouais, indolore, et très toxique.
Pas trop longtemps, parce qu'effectivement, il peut être douloureux à un certain moment. Donc, les symptômes, c'est effectivement d'avoir des pertes de repères, de la tête qui tourne, des maux de tête, des envies de vomir. Dans ce cas-là, il faut évacuer la pièce et l'aérer de façon très importante.
Et il se diffuse très rapidement en plus dans l'environnement,
le
monoxyde de carbone.
Donc c'est vrai, il faut vraiment veiller à ça et ça peut être une problématique très importante. Mais si on met en place des actions d'aération, de ventilation, on résout tous les problèmes, y compris celui-là.
D'accord. Donc, mais bien aérer, bien sûr, mais surtout penser avec des gestes simples. On peut vraiment réduire les risques, vraiment faire réviser vos chaudières régulièrement.
C'est essentiel, ouais.
C'est vraiment essentiel. Je voudrais qu'on revienne. On a vite passé en début d'émission, mais on s'auto-renseigne un petit peu sur les qualités de l'air intérieur, etc. Vous pouvez nous donner quelques clés, quelques petits sites sympas pour aller tester tout ça,
Jean-Luc Savet. Pour les personnes qui sont sensibilisées, qui aimeraient bien savoir, ils peuvent, donc j'en ai parlé tout à l'heure, utiliser un petit site internet qui s'appelait Un bon air chez moi, où on peut faire des tests pour voir ça. Si on veut aller un peu plus loin, il existe des plaquettes d'information. Par exemple, sur le site de l'ADEME, on a des plaquettes qui s'appellent Un air sain chez moi, moins de produits toxiques, le chauffage au bois, comment gérer son chauffage à bois, comment gérer sa ventilation aussi. Voilà, bon, il y en a peut-être d'autres. Donc, il y a pas mal d'informations là-dessus. Il y a un point aussi important, on n'en a pas parlé, c'est aussi les enfants qui sont impactés
dans
également
les établissements
par rapport
scolaires.
À la qualité de l'air intérieur dans les écoles ou dans les bâtiments. Il existe aussi des sites, dont un qui s'appelle Cartable Sain, je crois que ça s'appelle cartablesaindurable.fr, où on va pouvoir trouver quelques indications sur les fournitures scolaires, c'est qui sont les mieux... les moins émettrices et qui permettent de diminuer le risque auprès des enfants.
Donc, oui, parce que quelque part, on achète des fournitures sans savoir, mais après, nos enfants, ils sont dans les classes enfermés toute la journée, donc veillez à ce qu'il y ait le moins d'émissions possible.
C'est ça, voilà. Et après, nous, on travaille aussi avec les personnels scolaires à prise en compte de la problématique d'air intérieur, à une meilleure ventilation, à une meilleure gestion. On parlait tout à l'heure aussi du ménage dans les écoles également, et aussi dans les activités, lorsqu'on utilise de la peinture ou des feutres, de ventiler après, etc., d'ouvrir systématiquement pendant la récréation. Voilà, donc c'est des conseils pratiques qu'on diffuse également auprès des milieux scolaires.
L'ADEME aussi a un site de quelques fiches pratiques aussi là-dessus.
Voilà, donc ça c'était toutes ces fiches pratiques-là. Au niveau de la région également, il y a pas mal de travail qui est fait, notamment dans le plan régional santé-environnement, avec l'agence de l'urbanisme, l'ADEME, l'agence régionale de santé. Et il devrait y avoir très prochainement de la communication par rapport à ces problématiques d'air intérieur. Donc vous serez forcément informé.
Ça devient vraiment un problème de société, un problème de public,
c'est
de
ça,
santé
mais qui
publique.
Est pas forcément encore pris à hauteur de cette problématique. On parle beaucoup de la pollution extérieure et souvent à l'intérieur, on pense qu'on est protégé et c'est pas toujours le cas.
Donc c'est intéressant. Ça dépend aussi si on habite en ville, si on est en campagne aussi.
Ça dépend aussi de plein de choses, notamment de pratiques qu'on peut avoir autour. Mais pour faire un lien avec la pollution extérieure, c'est vrai que lorsqu'on a un voisin, par exemple, ou même soi-même, lorsqu'on brûle nos végétaux dans notre jardin...
On revient sur les végétaux,
on
va s'en parler.
On revient sur les végétaux. on crée de la pollution de proximité qui va directement rentrer dans les habitations. Et ça, c'est pas bon du tout. Quoi.
Voilà, donc, message subliminal, ne brûlez pas vos déchets verts.
C'est un peu le but.
On le répète jamais assez. Non, mais si vous avez un message à faire passer là-dessus, allez-y, profitez-en, Jean-Luc Savelli.
Ah non, parce qu'on a vu qu'on avait beaucoup de plaintes par rapport à ça. Il suffit de faire le tour de Corse. C'est un peu hallucinant, ce moment. Voilà, donc j'ai un collègue, pour tout savoir, j'ai un collègue de Lyon qui est en vacances actuellement et qui m'a demandé, mais pourquoi c'est pas interdit en Corse ? Peut-être parce qu'on avait une réglementation différente du continent, où, je vous rappelle, c'est interdit de brûler toute l'année.
Voilà.
Et donc, il s'étonnait que ça ne soit pas interdit en Corse. Mais je lui dis, si, mais...
C'est interdit, mais toléré, c'est ça ?
Toléré, voilà.
Voilà. On arrive déjà en fin d'émission. Merci beaucoup, Jean-Luc Savelli, d'avoir participé. Merci à vous d'avoir été si nombreux encore à nous appeler. Et puis, si vous avez loupé cette émission et qu'elle vous intéresse, vous pouvez bien sûr la retrouver sur notre site internet France Bleu RCFM et la commenter sur nos réseaux sociaux.
France Bleu RCFM.